Bonjour et bienvenue sur CFM pour ce nouvel épisode des Messagers du Cheval, une émission consacrée aux équidés et à leur univers. Je vous ai présenté au cours d'une émission antérieure ce magnifique cheval qu'est l'Akalteke. Aujourd'hui, symbole de l'état du Turkménistan où il est vénéré par son président, sa beauté ne cesse de fasciner les amateurs du monde entier. Pourtant, il aurait bien pu disparaître sans l'incroyable ténacité de ses éleveurs et l'incroyable épopée dans laquelle ils se sont lancés, comme je vais vous le raconter aujourd'hui. Akalteke veut dire « cheval turkmène ». Le nom Teke est celui de la tribu des Turkmènes, où la tradition veut qu'il ait été élevé, et Akal, celui de la vallée du même nom. Le berceau d'origine de la race se situe dans le sud du Turkménistan et le nord de l'Iran. C'est un cheval longiligne, endurant, à l'origine très ancienne, puisque les premières traces de sa présence sur Terre remonteraient à 500 ans avant Jésus-Christ. Comme beaucoup de races de chevaux et de poneys, dès la seconde moitié du XIXe siècle, celle des Akaltékés a été menacée par des croisements, notamment avec des purs sang anglais, et au XXe siècle, par la mécanisation de l'agriculture. Très prisé par les Russes, et ce depuis le XVIe siècle et le règne du tsar Ivan le Terrible, les autorités, et jusqu'au début du XXe siècle, développèrent cependant l'élevage de la race, dont le studbook est créé en 1932. Pourtant, l'Union soviétique de Joseph Staline a d'autres projets. Celle de l'abattage massif de chevaux pour la boucherie et le croisement d'Akalteke avec des purs sang anglais afin de créer une race de chevaux de course très rapide. Plutôt que d'obéir aux décrets qui les obligent à envoyer leurs chevaux à l'abattage, les Turkmènes préféraient les relâcher dans le désert. Et, en 1935, afin de démontrer les qualités uniques de leurs chevaux, ils décidèrent de tenter un exploit jamais accompli jusqu'alors. Relier Ashgabat au Turkménistan à Moscou, soit un trajet de 4300 km à travers l'Union soviétique, monté sur leurs Akalteke. Les cavaliers qui vont se lancer dans cette aventure ne sont pas des professionnels. Ils sont employés dans des kolkhozes, ces fermes collectives qui fleurissent alors dans toute l'Union soviétique. Le plus jeune avait 19 ans, le plus âgé 55. Hommes et chevaux furent sélectionnés avec soin. Un véritable programme scientifique se met en place. Les cavaliers et les scientifiques qui les accompagneront devront observer le comportement des chevaux. Le trajet tient tout d'un raid d'endurance, car les lieux qu'ils vont traverser sont particulièrement inhospitaliers. Le désert de Karakoum, le plateau d'Oust-Ourt, la steppe qui s'étend entre la Volga et l'Oural, et les forêts denses du centre de la Russie. Pourtant, le 30 mai, 28 cavaliers turkmènes, vêtus de leurs costumes traditionnels, encelés sur des akaltékés et des anglotékés, se rassemblèrent dans les rues d'Ashgabat, la capitale du Turkménistan soviétique. Nous avons des détails sur cette incroyable chevauchée grâce à des articles parus dans les journaux soviétiques, dont Izvestia, et surtout grâce au journal qu'a tenu le chef de l'expédition. La première partie du trajet est la plus dangereuse, puisqu'il leur faut traverser le désert de Karakoum, 350 km de sable chaud, sans route ni eau, avec des températures au sol pouvant atteindre 60 degrés. Voici ce qui est consigné dans le journal à la date du 4 juin. Nous sommes partis tôt. Il fait très chaud, 60 degrés. Il n'y a pas assez de nourriture pour les chevaux. L'eau est de très mauvaise qualité. Nous avons essayé d'en tirer de puits ensevelis, reste de la guerre civile. Certains étaient recouverts des corps d'animaux morts. Les chevaux refusent de boire cette eau. Arrivé 4 jours plus tard à Darvaza, un village situé au centre du désert, on peut lire. Nous avons été bien reçus par les habitants. Cependant, l'eau ici est mauvaise. On extrait du soufre et l'eau a un goût salé. Les chevaux ne veulent pas la boire. On ne peut rien faire d'autre que la verser dans leurs naseaux. C'est terrible de voir les chevaux souffrir comme cela, mais nous n'avons pas d'autre choix. Les chevaux terminèrent leur traversée du désert presque sans boire. Si les Akaltékés n'en furent pas affectés, ce ne fut pas le cas des Anglotékés. La prochaine étape est le désert et le plateau désertique d'Oust-Ourt, bordé par des falaises de 50 à 70 mètres de haut, qu'ils atteignirent le 12 juin. Ils font 90 km par jour. Ils partent tôt le matin et tard le soir, se réservant quelques moments dans la journée pour dormir. Une fois le plateau franchi, le terrain changea, tout comme les conditions climatiques. Le temps était devenu humide et il pleuvait beaucoup. Pour des chevaux habitués au climat désertique, ce changement est brutal. Le 29 juin, on peut lire dans le journal « Nous marchons maintenant depuis pratiquement 5 jours sans nous arrêter. Nous couvrons quotidiennement des distances d'environ 100 km. Indéniablement, il y a là un risque pour les chevaux, mais nous avons été surpris par la manière dont ils ont pu récupérer. Tout le monde s'en est sorti de cette étape difficile. Seul problème de santé, Kirbournak qui a pris froid, Kirbournak étant un des étalons à Kalteke. 9 juillet. Aujourd'hui, nous avons décidé de laisser les chevaux se reposer et demain, nous entrerons à Aktube. Nous sommes en retard sur notre programme, aussi nous essayons d'éviter les habitations que nous rencontrons fréquemment et où les gens veulent nous garder afin de nous nourrir. Sur la route, nous avons connu la faim et ici, nous mangeons trop. Alors que nous approchons d'Aktube, la nuit tomba. Dans l'obscurité, un des cavaliers et son cheval sont tombés dans une fosse peu profonde. Heureusement, leurs blessures sont superficielles et ils ont continué le trajet. Alors, Aktube se situe au Kazakhstan, sur la rive gauche d'un affluent de l'Oural. L'épopée des cavaliers turkmènes, comme nous le dit le journal, est devenue très populaire. Tout le monde veut les voir passer. Et partout où ils passent, ils sont accueillis chaleureusement. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale en écoutant Sugunin Soragi, une chanson de Mirat Mola, le roi de la pop du Turkménistan. Retour à l'expédition de 1935. Le 20 juillet, elle arriva à Bouzoulouk en Russie. On peut lire dans le journal. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à Bouzoulouk. Il pleut beaucoup. Les chevaux sont trempés jusqu'aux os. Il n'y a pas d'écurie en ville. Aussi, nous n'aurons pas eu d'autre choix que de les laisser sous la pluie avec des couvertures. Nous avons décidé de raccourcir nos étapes quotidiennes à 67 km. Nous avons aussi réduit les rations, autrement l'estomac des chevaux ne pourrait les supporter. 4 août, Moksham. Nous traversons la forêt. Les forêts étonnent les cavaliers. Chez eux, ils sont habitués aux arbres noueux. Voilà où poussent les poteaux du télégraphe, disent-ils en souriant. 8 août. Deux chevaux ont de la température associée à des coliques. Les chevaux ont des problèmes liés au changement de ration. Nous avons décidé de les laisser se reposer aujourd'hui. Le vétérinaire n'a pas fermé l'œil de la nuit et a surveillé les deux chevaux. Le 17 août, les cavaliers turkmènes et leurs chevaux se rapprochent de Moscou. Nous nous sommes réveillés tôt ce matin. Nous avons examiné les chevaux. Ils sont en excellente condition. Moscou n'est plus qu'à un jet de pierre, plus que 180 km. Enfin, le 22 août, tôt le matin, nous avons pris la direction de Lioubertsky. Alors Lioubertsky se situe dans la banlieue sud-est de Moscou, à 20 km du centre de la capitale. Là, nous avons été accueillis par un escadron de cavaliers et 500 cyclistes portant des drapeaux et des bannières. Nous avons été aussi escortés vers Moscou par un escadron militaire. Un petit rassemblement s'est formé dans la périphérie de Moscou, puis nous avons continué vers la place Rouge, où nous avons déposé des fleurs devant les murs du Kremlin. Toutes les rues de Moscou étaient décorées d'affiches et de tracts en russe et en turkmène, ainsi que de fleurs et de verdure. Toute la ville nous a accueillis. Tout le monde voulait voir les chevaux. Le lendemain, les cavaliers furent reçus au Kremlin par Mikhaïl Kalinin, président du Conseil exécutif central de l'URSS, et par Vyacheslav Molotov, président du Conseil des commissaires du peuple. Un décret officiel les récompensa de l'ordre de l'Étoile Rouge pour, je cite, « la transition équestre sans commune mesure dans l'histoire de la cavalerie » et on leur remit à chacun une montre en or personnalisée. Le commissaire du peuple à l'agriculture leur offrit également à tous une bicyclette, ce qui peut paraître bizarre, sachant qu'ils venaient de faire la traversée à cheval. 32 fermes collectives du Turkménistan reçurent des fonds de l'État afin de construire des institutions culturelles. Celles dans laquelle les chevaux avaient été élevés reçurent des camions. 17 des participants formant l'escorte des cavaliers reçurent un certificat du Comité central exécutif de l'Union soviétique, dont un correspondant d'un journal du Turkménistan qui avait suivi l'expédition et fourni de précieuses informations, le médecin responsable du groupe scientifique, ainsi que le cinéaste qui avait immortalisé sur la pellicule les cavaliers lors des étapes traversant les steppes de Ourtsourt et des contreforts des monts Mokjodar au Kazakhstan. Ces images furent incluses dans le film « Je cite son titre, « Héros des fermes collectives au Turkménistan ». Quant aux résultats scientifiques, ils étaient indiscutables. Les Akaltékés purs étaient arrivés à Moscou après 84 jours d'un voyage éprouvant en excellentes conditions. Ce qui n'était pas le cas des étalons anglo-tékés, c'est-à-dire croisés avec des purs sang anglais. En conséquence, les autorités gérant les studbooks décidèrent que les chevaux issus de croisements nés après 1936 ne seraient plus considérés comme des Akaltékés de pure race. C'en était la fin du programme de croisement. Parmi les 28 chevaux qui avaient participé à cette grande traversée du Turkménistan à Moscou, les Turkmènes choisirent un étalon gris âgé de 5 ans en parfaite condition du nom d'Arabe qu'ils offrirent à Joseph Staline. Arabe devient un champion de concours complet et de saut d'obstacle, établissant le record national soviétique en saut d'obstacle à 2,19 m alors qu'il était âgé de 16 ans. Il établit également une lignée qui porte son nom et qui est la plus réputée pour les chevaux de dressage. Son représentant le plus célèbre n'est autre que son fils, l'étalon noir Absinthe. Sous la selle de Sergueï Filatov, il remporta la médaille d'or en dressage individuel aux Jeux olympiques de Rome en 1960, première médaille d'or en équitation pour l'Union soviétique. Puis il remporta la médaille de bronze en individuel et par équipe aux Jeux de Tokyo en 1964 et la médaille d'argent par équipe en 1968 aux Jeux de Mexico, montée cette fois par Ivan Kalita. Absinthe est considéré comme le meilleur cheval de sport olympique des années 60 et le plus célèbre cheval d'Union soviétique. Dans sa thèse d'histoire russe, Alana Demers inscrit les performances d'Absinthe et de Filatov dans un contexte de transformation des chevaux en ambassadeurs de la culture soviétique après une époque de guerre et de collectivisation qui s'est accompagnée par la mort de milliers de chevaux. Pour l'anecdote, Au cours de l'épopée de 4300 km, les talons gris Al-Sakal et la jument Kirbadjal avaient trouvé le temps de concevoir un poulain qui fut nommé à sa naissance Moscou 518 et devint un bon cheval de course. Mais retournons à l'été 1935. Le trajet de retour des vaillants cavaliers et de leurs chevaux n'était pas envisageable dans les conditions de l'aller, car ils n'auraient pas pu arriver chez eux avant le mois de décembre, ce qui signifiait une météo automnale faite de pluie, de boue et de neige. C'est donc par le train qu'ils repartirent chez eux, où ils arrivèrent le 13 septembre, qui fut déclaré jour férié par le Turkménistan. En 1937, des tisserands de l'usine de tapis d'Ashgabad firent un tapis unique, retraçant la traversée de 1935. Il fut présenté à la Foire de New York en 1939, puis on ne le revit plus avant 2014, où il fut présenté lors d'une autre exposition. L'expédition de 1935 aurait ainsi sauvé la Kalteke de l'extinction voulue par Joseph Staline, une manière aussi de faire plier la résistance du peuple turkmène, pour qui le cheval revêtait une importance culturelle et symbolique immense. Cependant, l'éthologue française et spécialiste de l'Asie centrale, Carole Ferré, est plus circonspecte quant à la volonté politique des dirigeants soviétiques concernant l'éradication de la race. En effet, elle pense que, je cite, « si cette politique délétère avait été aussi unanime et cohérente qu'on l'affirme, il est probable qu'elle aurait abouti et que ce cheval aurait aujourd'hui disparu sans laisser de traces ». Il n'en demeure pas moins que l'exploit accompli en 1935 a mis en avant les qualités de ce cheval qui dispose d'un des meilleurs taux de récupération cardiaque parmi toutes les races de chevaux pratiquant l'endurance, grâce aux capacités exceptionnelles de son cœur et de ses poumons. Il a également contribué à conserver la race pure, d'autant plus que pendant la période soviétique, très peu d'Akaltékés ont été exportés. Voilà, notre émission est terminée. Pour la mener à bien, je me suis appuyée sur l'article de Christophe Visda, paru sur le site en ligne australien equestrianlife.com, où sont cités notamment les extraits du journal. Le site américain arcanteke.com a également consacré un long article à l'expédition. Les noms et les pédigrés de 17 des chevaux sont disponibles sur le site tchèque akal.net. Et enfin, je vous recommande le très bon article de Wikipédia sur la race. Bonne semaine à toutes et à tous. Et à très vite pour une nouvelle émission.